7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, c'est le rendez-vous des tchatcheuses avec trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix. Aujourd'hui, nos tchatcheuses sont Paola Martinez Infante. Hola Paola.
Hola, buenos días.
Journaliste chilienne. Ana Navarro Pedro, journaliste portugaise pour l'hebdomadaire Visao. Bom dia, Ana.
Bom dia, Emmanuel.
Et la journaliste turque, alors toute la question de savoir où on place la Turquie, Ayşe Gül Sert. Bonjour Ayşe Gül.
Merhaba, Emmanuel.
Vous écrivez pour la presse américaine, donc je vous dis aussi morning.
Good
mesdames,
morning to you.
C'est vous qui faites l'émission en tout cas. Vous reviendrez sur les débats et les menaces qui pèsent sur le droit à l'avortement aux États-Unis, sur les manifestations étudiantes au Chili, un peu éclipsées d'ailleurs par celles des étudiants algériens, et sur la dernière saison de la série Game of Thrones. Voilà une toute petite partie du programme des 7 milliards de voisins. Et quant à vous les voisines, si vous êtes journaliste dans votre pays, sachez, et je le redis, que l'émission est ouverte à toute tchatcheuse qui n'a pas sa langue dans sa poche. On accueillera une tchatcheuse ivoiro-guinéenne au téléphone à Binyakate pour parler de la famille africaine qui fait l'objet, c'est vrai, depuis quelque temps de débats législatifs en Guinée, en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp pour laisser vos commentaires écrits audio.
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Tu vas maintenant ici.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Ana Navarro Pedro, bien sûr, vous voulez revenir sur le sujet du moment aux États-Unis où l'État de l'Alabama a voté ce mois-ci la loi la plus répressive jamais votée contre l'avortement. Beaucoup de manifestations, pas seulement en Alabama d'ailleurs, aux États-Unis pour protester contre la répression du droit à l'avortement en Alabama. Cette loi du 14 mai dernier, c'est une loi qui interdit l'avortement. Aucune exception en cas de viol ou inceste. Elle prévoit une peine de 10 à 99 ans de prison pour les médecins qui pratiquent l'IVG. L'unique exception, c'est le danger vital pour la mère. Ana Navarro Pedro, vu là où on en est aux États-Unis et pas seulement aux États-Unis, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah, pas mal de choses. Pour commencer, première chose, on sent, et on en a dit à plusieurs fois dans cette émission, que toute cette bataille conservatrice pour des idées très conservatrices dans le monde est en fait une bataille pour la domination des femmes par les hommes.
Une bataille de minoritaires, il faut bien le redire. 70% des Américains sont pour le statu quo, pour le droit à l'avortement.
Oui, mais il suffit de 25 hommes blancs, âgés, encravatés, pour décider de l'avenir du corps de millions de femmes.
Les 25 républicains.
Et donc ce n'est pas une bataille
Alabama.
Démocratique. Et à partir du moment où on instaure cette sorte d'apartheid contre les femmes, puisqu'elles ne peuvent pas décider de leur corps, tandis que les hommes peuvent décider de leur corps, à partir du moment où on en a l'idée qu'on peut légiférer sur le corps de la femme et lui donner des ordres, mais jamais sur le corps de l'homme, eh bien, on n'est plus en démocratie parce qu'on n'est pas égaux en droit entre hommes et femmes. Et donc, c'est gravissime. Et il ne s'agit pas de penser que ça peut arriver qu'aux États-Unis parce que ça va aller dans le monde entier. Et on voit déjà des poussées énormes dans le monde entier, là où les médecins ne sont plus formés à pratiquer des avortements. Là, je comprends la clause de conscience pour beaucoup de médecins et je ne la combats pas du tout. Mais je trouve que derrière ça, il peut y avoir effectivement des tentatives de l'utiliser pour empêcher, encore une fois, les femmes décider pour elles-mêmes.
On a vu l'exemple en Pologne aussi, comme vous disiez. Donc ça se répand de plus en plus.
Oui. En Pologne, où on a essayé d'interdire, il a fallu des manifestations de femmes très puissantes et des hommes aussi.
Il y avait des hommes aussi quand même.
Et beaucoup d'hommes aussi.
Toute la question est qu'est-ce qui va se passer ? La loi est contraire à la Constitution américaine. Le 14e amendement dit bien qu'un État ne peut priver une personne de sa liberté. Évidemment, ça va être examiné par les juges à la Cour suprême.
C'est tout le but. C'est tout le but à Alabama de la Géorgie.
Géorgie. Il y a un danger immédiat.
Je le vois. Franchement, il y a beaucoup de gens qui pensent que non. Moi, je le vois. La Géorgie, l'Alabama, Mississippi, Ohio aussi, Kentucky, sont des États qui ont vraiment restreint. Le Texas, juste pour info, le Texas a échappé de peu, mais de très peu de votes à une loi qui condamnait à mort les femmes qui auraient fait un avortement. Donc, on vient d'y échapper il y a 2 semaines. Le but, c'est, juste pour finir, le but, c'est d'amener, ces lois ne peuvent pas entrer en vigueur contre la loi fédérale, contre une décision de la Cour suprême de 1973,
qui interdisait la loi du Texas, qui interdisait l'avortement.
Voilà. Et donc, le but maintenant, c'est d'amener ça à la Cour suprême pour qu'elle annule la décision de 1973 et qu'elle permette à tous ces États de revenir sur cet acquis des femmes.
Moi, je pense que ce n'est pas... peut-être que c'est une vision un peu plus optimiste, mais je ne pense pas que c'est le but, en un sens, pour reprendre le mot que vous avez dit, et peut être atteinte d'une façon aussi rapide et facile. Je trouve que le but est de remettre continuellement en question le corps de la femme et, comme vous disiez, le pouvoir de l'homme sur la femme.
Dans le cadre d'une guerre culturelle plus large d'ailleurs.
Tout à fait. Mais je peux vous donner aussi, oui, tout à fait. Et aussi, je peux vous donner l'exemple de la Turquie où je viens de rentrer la semaine dernière en Istanbul, où j'ai entendu beaucoup d'histoires où en Turquie le droit à l'avortement est permis depuis 1980. Et pourtant, c'est légal. Et de plus en plus, dans les hôpitaux publics, vous avez moins de médecins qui acceptent de faire l'opération.
Au nom de la clause de conscience.
Tout à fait. Oui, donc, il y a aussi le gouvernement, comme vous disiez, Paolo Lincens, qui vient d'une façon plus politique afin de mettre cette pression.
D'ailleurs, justement, on a ce cas précis en Argentine. L'Argentine, 2005, ils ont commencé justement tout un travail de conscientisation, de sensibilisation pour approuver cette loi. Il y a eu une loi qui a été approuvée par le député, en première instance. Et le Sénat, l'année dernière, a dit non, la loi, non, elle va pas passer. Il n'y aura pas de droit à l'avortement en Argentine. On l'a vu récemment dans les marches à Cannes. Okay. Il y a des femmes qui sont montées avec le foulard vert en hommage justement à toute cette bataille féminine qui fait rage en Amérique latine. D'ailleurs, il faut le rappeler. Et c'est pour ça que je dis que la bataille, elle est politique. Parce que d'une part, on a une société civile qui est nombreuse, mais multitudinaire, qui est pour cet avortement. C'est une question de santé publique. C'est même pas la question morale, c'est une question de santé publique. En Argentine, il y a une femme qui meurt, une femme sur deux meurt à cause d'un avortement clandestin. Donc, c'est un vrai problème de société, de santé publique. Et pour autant, on a une classe politique qui est complètement rancia, on dit en espagnol, ouais. Je ne sais pas comment on dit en français, qui est conservatrice, qui est majoritairement masculine et qui décide des corps des femmes. L'Argentine, elle n'a pas toujours dit son dernier mot. Il faut encore faire des recours. Ce qui me fait peur, notamment, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tellement blindé ces gens-là en politique, ils ont tellement protégé ces sénateurs, que peut-être ça ne va pas changer les choses. Et même des manifestations telles que les connaît en Argentine, partout, même au Chili. Mmh. Chili aussi, il a approuvé une loi pour l'avortement sur 3 conditions. Mais même aujourd'hui, ça ne parle pas d'une société qui veut plus des droits des femmes, qui ne veulent plus être pointées du doigt parce qu'ils ont le droit ou pas d'avorter.
Non, mais en plus, c'est mon corps. Je vis avec mon corps. Et personne d'autre, que ce soit une femme ou un homme, a le droit d'avoir accès à ça.
Entrer dans le piège du débat, parce que sinon, est-ce qu'on n'est pas un peu majoritairement démunis sur ce
débat. Il faut rentrer dans les pièges. Et juste un exemple, rappelez-vous, quelques années, il y a 2-3 ans, en Espagne, pareil, Rajoy, qui était à l'époque le Premier ministre, a voulu aussi revenir sur les droits à l'avortement. Toutes les femmes sont sorties dans la rue. Ils ont mis tellement une pression énorme qu'ils ont dit « Ok, c'est bon, je ne touche pas parce que c'est un droit inaliénable des femmes. » Il faut continuer notamment à manifester et à mettre ça au débat.
On parle des textes, on parle de la loi, mais quand aux États-Unis, dans certaines localités, il ne reste qu'une seule clinique qui pratique des avortements avec des militants à la porte qui harcèlent les médecins, vous préconisez quoi pour préserver le droit constitutionnel, sachant que ce sont les femmes les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de voyager, d'aller ailleurs, dans d'autres cliniques qui sont concernées par ces restrictions. Hein, ça
la solution
pas.
Ne peut être que politique. Et les femmes et les hommes aux États-Unis ont compris, ils commençaient à se mobiliser.
Des policiers devant des cliniques, c'est quoi la solution politique ?
S'il y a une loi, il faut bien la faire respecter. Donc, effectivement, on pourrait recours à la force aux autorités publiques pour la faire respecter.
Avec la clause de conscience ?
Là on parlait d'une clinique où on pratique l'avortement, où des militants essayent d'en empêcher. Vous savez, il y a le cas d'une femme d'Alabama qui a raconté son histoire à la presse pour qu'on sache. Elle est une femme noire, pauvre, et elle a été violée dans son travail. Et elle était enceinte à suite de ce viol, et elle a pu faire un avortement. Elle dit, si aujourd'hui j'aurais pas pu faire un avortement, je me serais suicidée, parce que je ne pourrais admettre l'idée d'avoir un enfant de mon violeur. Et il y a des cas de santé publique. On va avoir à nouveau des femmes qui vont mourir et qui vont essayer par tous les moyens, avec tout ce qu'on trouve sur Internet, pour essayer de se faire avorter. Mais la lutte est partie sur l'économie aux États-Unis. On a un appel au boycott des entreprises qui se trouvent dans les États qui sont en train de prôner ces restrictions au droit d'avortement. Là, Mercedes-Benz, qui est une entreprise allemande de voitures, et Hyundai, entreprise japonaise, eh bien, il y a un appel au boycott. Parce qu'elles sont basées en Alabama.
Et vous avez raison de souligner ça. Ça peut peut-être faire évoluer les choses.
C'est ça qui fera évoluer les choses.
Et on reconnaît bien la journaliste économiste Anna Navarro-Pedro. Et Issé Gulcert, ça va pas fort en Europe. Hein. Je crois que ça, tout le monde l'a constaté à 4 jours des élections européennes. Et vous, en tant que journaliste turque, vous posez une question. Qu'est-ce que les intellectuels peuvent faire dans cette histoire et ce marasme ?
L'Europe telle qu'elle n'arrive pas à tenir ces poussées disgrégatrices. Il faut relancer, passer à l'attaque. Il ne faut pas crier au danger, il faut parler d'espoir et de courage.
On est quand même la seule zone aussi grande sur la planète qui a en commun, par exemple, un espèce de souci humaniste de mettre en avant, je ne sais pas moi, la fin de la peine de mort, le droit des femmes, l'avortement, toutes ces choses-là ne sont pas encore complètement uniformes en Europe. Mais cet humanisme européen qui existe et qui ne date pas d'aujourd'hui, au fond, c'est notre identité.
Des intellectuels sur France Culture, Éric De Luca, Laurent Godet, que vous avez d'ailleurs interviewé, Issé Gül, pour le New York Times,
c'était,
je peux dire.
C'était pour Literary Hub. Oui.
Ah, c'est ça. Et qui tentent désespérément de mobiliser l'Europe. Est-ce que c'est à eux qu'incombe cette mission ? C'est un peu ça la question que vous vous posez, vous.
Je me dis pourquoi pas. Déjà, je suis très touchée d'entendre d'abord la voix de Éric De Luca et ensuite de Laurent Godet parler de ce sujet. Parce que je viens de la Turquie. La Turquie, je suis née et j'ai grandi là-bas, avec qui a longtemps rêvé de cette Europe. Et autour de cette table ronde, je suis peut-être la seule qui n'est pas européenne et donc qui continue à rêver
non,
de...
Moi aussi.
Ah oui, deux. Et qui continue à voir les valeurs que l'Europe apporte. Mais je suis aussi un petit peu fatiguée, je devrais dire, d'entendre les hommes politiques et plutôt les économistes parler de ce sujet. Et je me demande si ce n'est pas la culture qui devrait avoir une place plus importante dans ce débat sur l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle je suis... Là, il y a Michel Debris avec le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo début juin qu'il organise et qui a mis l'un des grands thèmes « Demain, l'Europe
». Et ça y est, et vous nous remettez l'Europe dans un débat élitiste alors ?
Élitiste, non, je ne le pense pas, parce que c'est au contraire. Est-ce que je trouve que l'art et la culture permettent de faire plutôt les ponts qui rallient les différences et un peu plus que les débats sur les économies, sur les contrats, etc. Voilà, donc je pense que la raison pour laquelle on voit autant de livres de ces intellectuels et écrivains, de festivals qui met en avant, en un sens, l'Europe est quelque chose de très positif et permet... aux
avec
Européens.
Avec des poèmes d'ailleurs hein, sur l'Europe.
Tout à
donc
fait.
Là, on est vraiment sur les émotions.
Ah, le livre de Laurent Godet qui vient de sortir chez Actes Sud est un poème de 200 pages. Éric De Luca, c'était une pièce de théâtre qu'il a écrit plusieurs années. Ce sont des autres formes de discours qui met au contraire l'homme au devant de la scène.
Oui, et surtout sortir un peu de ces discours très anxiogènes de l'immigration, de la peur de l'autre. Et je pense que notamment, je pense à Javier Cercas, que tu avais aussi mentionné. Lui, c'est un intellectuel, un écrivain espagnol qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur le passé. Et notamment dans son discours actuel, il dit il faut regarder le passé pour pouvoir avancer. Et c'est ça tout à fait ce qu'il faut faire. On est enfermé aujourd'hui, moi, non européenne, mais en vivant en Europe depuis 20 ans déjà. Et je vois un peu un discours qui est très enfermé et ça me fait la peine. Je trouve ça triste en fait que ce soit comme ça.
Vous êtes une journaliste portugaise. Le Portugal qui est vraiment un pays pro-européen, il n'y a pas de sentiment anti-européen au Portugal comme ailleurs en Europe.
C'est un Portugal qui est pays qui est devenu européen très tard. Parce que là, un petit peu coincé derrière l'Espagne et entre l'Atlantique et l'Espagne, quand nous sommes adhérés à l'Union européenne, enfin à la communauté économique européenne à l'époque, c'est la première fois que nous sommes venus découvrir l'Europe. Les Espagnols, bon, ils avaient quand même pris la Belgique en otage, un peu les Pays-Bas.
C'était plus malin peut-être.
Un petit peu aussi en Italie. Nous,
c'était vraiment. L'Europe vous a aidé aussi pour sortir de la crise économique et financière.
L'Europe, non, c'était pour asseoir la démocratie, surtout.
Non, mais là, récemment, depuis 2008.
Depuis 2008, c'était.
C'est un grand débat.
Non, c'est pas là-dessus. On aurait pu peut-être éviter.
L'Union européenne, ces conditions. N'a pas été complètement.
C'est là, peut-être, où le sentiment européen a commencé à baisser au Portugal, parce qu'on nous a privés de démocratie, puisqu'on nous a dit vous pouvez voter pour qui vous voulez, droite, gauche, extrême droite, extrême gauche. Ça n'a aucune importance, vous ne pouvez avoir qu'un seul programme. Donc, oui, l'Europe aussi, l'Europe telle qu'elle se fait à Bruxelles, elle est pesante, elle est autoritaire et elle est distante. Tandis que l'Europe des intellectuels, ce qu'il y a de magnifique, c'est que justement, ils n'ont pas peur des autres. Quand Eri De Luca nous parle de l'Italie et des places, des places centrales en Italie et de toute cette façon d'être italienne, italien en Europe. Mais c'est magnifique et on sent des choses. Il y a des plats, il y a des comportements que l'Europe du Sud comprend. Et puis quand on lit les écrivains du Nord, quand on regarde une pièce type scène, par exemple, eh bien, il y a quelque chose quand même qui c'est différent et ça nous parle. C'est à côté, c'est le voisin.
Bon, c'est une façon différente. On n'a pas envie d'être européen. Et donc, alors là,
voilà. Donc, dans cette différence, ils savent construire des ponts. Et voilà. Et tandis que l'Europe institutionnelle, elle est quand même un tout petit peu désagréable.
Vous restez avec nous, les tchatcheuses. On va donner la parole à une tchatcheuse qui nous appelle d'Abidjan dans quelques instants.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Allez, on file, parce que vous nous avez donné tellement de sujets à commenter, les tchatcheuses. Bonjour, Abinia Kate.
Bonjour.
Vous êtes une journaliste ivoiro-guinéenne à Abidjan et vous nous avez contacté.
Rectification, je suis franco-malienne.
Ah pardon, d'accord. Bon alors j'ai été très mal informée, toutes mes excuses. Franco-malienne à Abidjan. En tout cas, vous êtes bien journaliste et vous souhaitez attirer notre attention sur les débats récents autour de la famille en Guinée, comme en Côte d'Ivoire d'ailleurs.
Tout à fait. On a deux réformes qui sont en cours dans ces deux pays. Alors, en Guinée, on revient complètement sur l'interdiction de la polygamie, qui était interdite depuis les années 60, donc depuis les années de l'indépendance. Un homme ne pouvait prendre qu'une seule femme. Et aujourd'hui, donc 51 ans plus tard, on autorise la polygamie, à condition cependant que la femme donne explicitement son accord le jour du mariage et qu'elle dise à son mari, tu peux prendre une deuxième femme, une troisième femme ou même une quatrième femme. Donc c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale mais qui n'a toujours pas été promulguée par le président de la République, Alpha Condé. Mais bon, c'est ce qui devrait être promulgué de toute façon dans les jours qui viennent. Et en Côte d'Ivoire, la polygamie a toujours été interdite aussi. Cette fois-ci, en 2019, donc on ne revient pas sur la polygamie. On procède, j'allais dire, par évitement. On modifie la loi sur la filiation, puisqu'auparavant, les hommes mariés qui avaient des enfants hors mariage ne pouvaient pas les reconnaître sauf autorisation expresse de leur femme. Aujourd'hui, ils peuvent reconnaître ces enfants. Enfin, la réforme prévoit en tout cas qu'ils pourront reconnaître ses enfants nés hors mariage, donc avec des femmes qu'ils ont épousées de manière coutumière donc pas du tout légale, sans l'autorisation de leur femme.
Oui, parce que précisons bien que la polygamie dans le mariage coutumier est largement pratiquée en Côte d'Ivoire. Hein. Et là aussi, c'est tout le débat entre droit moderne et droit coutumier. Mais en tout cas, là, le nouveau texte en Côte d'Ivoire, il protège les enfants et il protège aussi les veuves.
Il protège les enfants, il protège aussi les veuves, mais en fin de compte, qui est perdant dans cette histoire? Oui. Moi, je vois deux perdants. Je vois, un, la femme légitime, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce terme, qui est la femme qui voit son foyer étendu malgré elle, on va dire.
Oui.
Et de l'autre côté, la mère de ces enfants qu'on dit illégitimes, même si je n'aime pas non plus ce terme, qui, elle, de toute façon, voit d'un côté son enfant reconnu par le père, mais qui, elle, n'est pas reconnue de toute façon. Donc, soit on est dans un... Soit on va jusqu'au bout et on autorise les hommes, effectivement, à marier plusieurs femmes et à reconnaître toutes leurs femmes, qu'elles soient égales en termes de droits, etc. Soit on ne l'autorise pas et, effectivement, on a... Comment dire, tout ce qui est droit de l'enfant, etc., devient un peu plus problématique.
Ouais. Et pour vous, la question de fond à Binyakate, en tant que journaliste, c'est qu'est-ce qui devrait émerger de ces débats, finalement, sur la famille?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat. En fait, ce sont des lois qui sont effectivement votées, discutées dans des assemblées qui, elles, ne sont pas très représentatives de la population.
Ouais. Donc, vous dites qu'il faut un débat sur la famille, sur quelle famille on veut en Afrique. C'est ça, finalement, à Binyakate.
Exactement. Parce qu'on met le problème à chaque fois sur le tapis, et on ne se pose pas les questions de fond. Est-ce que, effectivement, on veut des familles qui sont calquées sur le modèle occidental, une femme, un homme, des enfants, et puis c'est tout? Soit on assume le fait qu'on est dans des sociétés où la polygamie est presque finalement la norme,
ouais,
et on adapte notre système législatif.
C'est une vraie question et c'est compliqué. Aysegül Sert, vous voulez intervenir en tant que journaliste turque?
Tout à fait, parce que ça fait écho à la Turquie, à l'est de la Turquie aujourd'hui, en Anatolie. Il y a beaucoup de... Ce n'est pas ancien, mais même actuellement, il y a beaucoup de cas de famille où il y a des mariages d'un homme qui, parce que son frère est décédé, se marie avec la femme de son frère pour ne pas que la femme parte autre part. Je pense que quand vous avez dit que les hommes, on doit leur autoriser de faire ça légalement, ou non, la question de fond n'est pas là. La question de fond est que, à mon humble avis, la polygamie ne peut pas être légale. Parce que même si on demande le consentement de la femme est sous la pression familiale, sociétale, et donc le oui qu'elle donnera sera fait par ne sera pas fait vraiment d'une liberté. Et je pense que c'est là où, quand une loi doit passer, les hommes qui veulent faire passer cette loi doivent se dire, si moi j'étais de l'autre côté, si ma femme voulait prendre un deuxième mari, un troisième mari, un quatrième mari, alors qu'est-ce que j'en penserais? Je pense qu'il faut reformuler la question des deux côtés.
Binyakate ?
Je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Le problème de fond, effectivement, on dit qu'on est en démocratie dans les deux pays dont on parle, la Guinée et la Côte d'Ivoire, et en démocratie, effectivement, une femme est égale à un homme. Donc, ils sont égaux en droit. Si un homme, effectivement, a droit à quoi quatre femmes, une femme devrait, théoriquement, elle aussi, être autorisée à avoir deux, trois, quatre maris. Donc, c'est une question de choix. On assume d'être dans des démocraties, imparfaites, où on a des petites entorses comme ça, et on adapte nos législations à ça. Mais là, on est dans... Un coup, on est très occidentaux, un coup, on est très africain. Donc, ça dépend des questions, quoi. Et on est dans une sorte de schizophrénie qui, pour moi, ne fait... seule perdante, la femme.
Eh ben, merci à Binyakate, en tout cas, d'avoir mis le doigt sur ce débat ô combien difficile. Peut-être que si aussi il y avait plus de femmes dans les personnels politiques, les débats seraient aussi différents. Quoique au Sénégal, on a énormément de femmes députées, vu la loi sur la parité. Et la polygamie est dans les textes, est tout à fait
dans
légale.
La direction des médias.
Avec le consentement de l'épouse. Et Anna Navarro-Pedro, juste un petit mot de commentaire et ensuite on passe à un autre sujet.
Oui,
merci en tout cas à vous, à Binyakate.
passé. Hein.
C'était justement sur la question du débat que notre interlocutrice, notre chatcheuse appelle ses voeux. Est-ce qu'il y a assez de femmes dans les médias publics pour porter ce débat?
Alors, Abinia Kate nous a quittés, mais en tout cas, je rappelle notre numéro de téléphone pour celles et ceux qui veulent participer à nos débats, à celles surtout, les journalistes femmes dans leur pays qui veulent participer au débat sur les tchatcheuses. Des tchatcheuses, 33 1 84 22 71 71. Aïssé Goul, certes, un nouveau maire fraîchement élu en Turquie, dans l'est de la Turquie, vous inspire un questionnement assez universel finalement, mais sur la nature profonde des hommes politiques.
Oui, je me demande si l'humilité et l'humanisme en politique est-ce possible.
Ça va parler à pas mal de gens, ça.
Et surtout en France, mais partout dans le monde. En Turquie, aux élections municipales du 31 mars 2019, un homme d'une cinquantaine d'années, avec sa petite moustache, un grand sourire, a été élu. Il était le dirigeant, entre guillemets, le gouverneur d'un petit village d'une communauté de 3300 personnes. Et il a été élu à l'est de la Turquie pour être le maire d'une ville de 82 000 personnes, qui est une ville aussi assez symbolique parce qu'elle est très mixte en termes de Kurdes, de Turcs et de religion à Lévi.
Alors on va donner son nom à cet homme.
Et bien sûr, c'est Fatih Mehmet Maçoğlu. Je vous le donne non seulement, mais en plus avec un accent authentiquement turc. Ce qui m'inspire chez lui beaucoup, c'est qu'il a déjà en 2014, quand il était à Ovacık, donc dans cette communauté, il avait créé une assemblée de peuple où tous les habitants venaient chaque semaine dire ce qui devrait être dans l'ordre du jour, en un sens, concernant les décisions de la gestion municipale. Je trouve ça très salutaire. Et aussi, il a relancé l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a une distribution de semences aux agriculteurs, constitution de coopératives, des ventes, par exemple à Istanbul, aujourd'hui, vous pouvez trouver du miel qui vient de cet endroit, et on appelle le miel communiste, parce que lui, il se présente en tant que monsieur le communiste. Et aussi, c'est l'unique communiste en Turquie qui a le, entre guillemets, le pouvoir aujourd'hui. Et aussi parce qu'il donne beaucoup d'attention aux femmes, qu'elles soient aussi présentes dans la main d'œuvre et aussi dans les écoles. Les transports sont gratuits et donc ça m'inspire, ça me fait aussi penser à Pepe José Mujica, en Uruguay, qui était le président de 2010 à 2015. 15,
ex-président de l'Uruguay, en effet.
Et qui aussi avait refusé la voiture officielle, qui avait décidé, au lieu d'être dans un palais comme mon président actuel en Turquie, avec 1100 chambres, lui, il voulait rester dans sa petite ferme et diriger de là. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très salutaire. Et que ça montre aussi que le monde d'aujourd'hui est très divisé. D'un côté, on a des pays où on veut des hommes, des leaders forts. Et d'un autre côté, les citoyens veulent des hommes comme Fatih Mehmet Maçoğlu, comme Pepe, qui comprennent qui viennent du bas vers le haut.
Et en même temps qu'ils sont prêts à désavouer quelques années plus tard sur des bilans qui sont d'ailleurs pas forcément extraordinaires, hein, sur le bilan de l'ex-président uruguayen, sur son bilan économique.
Oui, enfin, et non, je suis pas très d'accord avec
ça. Non, mais c'est une question que je pose, mais ça a été un peu dans le débat finalement.
Bien entendu, mais Pepe Mujica a fait quelque chose qui est exceptionnel, qu'il était cohérent avec son discours et la façon de vivre, ce qu'ils ne font rien du tout, enfin, ce qu'ils font pas du tout les politiciens et les politiques qui nous on connaît en Europe et aussi en Amérique latine. Et comme tu disais très bien, il a décidé notamment d'être vivre une austérité totale, d'être en accord justement avec ce que lui il prenait, cette idée communiste, socialiste, de surtout pas courir après les profits, et surtout donner des garanties au peuple, des droits fondamentaux. Notamment, je veux dire, il a fait son milieu économique, peut-être on peut le discuter, parce qu'en Amérique latine, il y a beaucoup de difficultés économiques. Mais c'est un pays qui a progressé énormément. Et il faut savoir qu'il a fait juste un mandat. 5 ans, il en a fallu à Pepe Mujica pour faire quoi ? Droit à l'avortement, légalisation de la marijuana, du cannabis. Et
légalisation du mariage homosexuel.
Du mariage homosexuel avec un pays, c'est vrai, c'est un pays petit, fait 3 millions et demi d'habitants, mais quand même, c'est un laboratoire, c'est un peu comme
la communauté. Est-ce que ça change vraiment la vie des gens au quotidien ?
Absolument.
Et est-ce qu'il sera dans la course à la prochaine présidentielle ?
Non, il a 80 ans, je ne pense pas. Il est très tranquille et content de donner des conseils à qui personne. Il disait l'autre fois, je suis très content maintenant de donner des conseils que personne écoute, mais au moins, et j'ai déjà un bilan derrière moi, et son bilan, c'est ça, être cohérent avec la fonction, avec ce que lui, il prend.
Ouais, alors, en creux, on a ces hommes politiques, donc, dans la cohérence, qui mettent mieux en lumière tous les autres. Anna Navarro-Pedro.
Oui, c'est des exceptions qui confirment la règle. Il n'y a pas beaucoup d'attention aux populations. Dans la classe politique, en général, dans le monde entier, on ne fait pas beaucoup d'attention aux gens, à ses administrés, aux gens qu'on doit gouverner. C'est tout le problème.
Et pourtant, ce que vous citez, c'est quand même, ça semble être du bon sens, finalement.
Mais tout à fait. Mmh. Mais vous avez raison, parce que je pense que ces deux exemples de Fatih Mehmet Maçoğlu et de Pepe Mujica, c'est qu'ils ont compris une chose de la politique, c'est être à l'écoute du peuple. Mmh. Et que les hommes politiques, aujourd'hui, oublient. Et en ce qui concerne son bilan contrasté dont vous parliez, moi j'ai trouvé qu'il y avait dans les 5 ans, qui est rien du tout en un sens, qui est très court, une création d'emplois importante, une chute des inégalités, une hausse du niveau des revenus. C'est vrai que le pays s'est endetté encore plus, mais comme vous disiez Paola, il y a eu énormément de lois pro-humaines pour amener
et
au humanisme
au
qui sont passées.
Son mandat.
Pour les bilans des ex-présidents, on reviendra, il faudra un petit peu plus de temps. Hein. Paola Martinez Infante, dans quelques instants, vous allez nous mettre le nez dans nos pires déchets, les cadavres humains.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Je le disais bien, je ne sais pas si on m'a entendu, parce que toutes les chatcheuses pouffaient de rire. Mais est-ce qu'il y a de quoi pouffer de rire? Nous mettre le nez dans nos pires déchets, les cadavres humains.
I should die before I wake. All my bone and sinew take. Put me in the compost pile. To decompose me for a while. Worms, water, sun will have their way. Returning me to common clay. All that I am will feed the trees and little fishies in the seas. When radishes and corn you munch, you may be having me for lunch. And then excrete me with a grin, chortling, there goes Lee again.
C'est quand même extraordinaire de chanter une chanson qui fait rire tout le monde pour parler des cadavres. C'est Arlo Guthrie, en début des années 82, il dit « Si je dois mourir avant de me réveiller, prenez mes os, mes tendons, mettez-moi dans un tas de compost. » On est au début des années 80. Hein. Ouais. « Que je me décompose pendant un moment, les vers, l'eau, le soleil feront leur affaire pour que je redevienne de l'argile, nourrir les arbres et les poissons, les petits poissons dans la mer. » Enfin voilà, c'est tout un petit programme de jardinage. Ceci dit, aujourd'hui...
C'est le compost humain.
C'est ça, le compost humain, Paola Martinez, aux États-Unis, donc l'État de Washington vient de légaliser en avril dernier ce qu'on appelle l'humusation du défunt. On a découvert le mot.
Tout à fait, il faut expliquer. En fait laisser transformer le corps humain en alternative aux funérailles et en même temps c'est un geste écologique. Comment on fait? Et c'est un processus contrôlé de transformation. On évite, parce qu'il faut savoir que la crémation, l'incinération et l'enterrement, ça pollue énormément. L'enterrement, ça pollue les nappes phréatiques et les crématoires. Ils font des émissions de CO2 importantes. Il faut savoir que les gens ils meurent tous les 5 secondes.
De militer pour le compost
tout
humain,
à fait.
Là, je crois qu'on a compris.
Donc, ça ouvre énormément de questions et des possibilités.
En quelques mots, ça marche comment?
Ça marche comment? Je vous explique.
Cadavre.
On retire des vêtements, les bijoux enveloppés. Après, on enveloppe les corps dans un linceau. On les met en terre avec un linceau biodégradable. Attention. Après, on dépose sur un lit végétal de 20 cm. Puis, on recouvre avec des tumules, des feuilles mortes, des petits copeaux
qui se dégradent beaucoup plus vite que des os. Hein.
Après 3 mois, la peau chair décomposée, on retire les prothèses éventuelles qu'il y avait dans ses corps et tout ce qui est non organique. Et au bout des 12 mois, on obtient 1 mètre cube d'humus, donc encore en décomposition. Et les proches peuvent récupérer ces composts et après le faire peut-être pousser un arbre quelque part ou les mettre dans son jardin pour faire pousser des tomates et peut-être être pourquoi manger par des enfants et les petits-enfants. C'est un peu... Voilà. Donc, je trouve que l'idée, elle est assez intéressante parce que d'une part,
C'est le premier endroit au monde où c'est légalisé,
à Washington, oui, mais l'idée fait
en
quand
France,
même
évidemment, c'est interdit.
Son chemin, elle le fait en France parce que c'est illégal, il faut le dire, en français illégal, et en Belgique aussi. Et il y a des organisations, des associations qui se battent notamment pour pouvoir l'autoriser. Et en Belgique, il y a des premiers essais, c'est un plaidoyer pour la humusation.
Donc pas de concession, pas de pierre tombale, pas de concession,
c'est juste un terrain, famille, notamment hein. C'est un jardin forêt de la métamorphose. Je trouve le mot magnifique, le métamorphose.
Forêt de la métamorphose.
C'est cette idée notamment très idéaliste, très romantique, dans laquelle on devient encore à la terre. Et c'est à la Pachamama, il faut lui offrir, faire une offrande à la Pachamama.
Donc qui veut terminer en compost pour la forêt? Et c'est moins cher aussi, c'est moins cher. Ou sur des plantes
de tomates. Ça coûte 2000 euros contre 6000 euros que ça coûte aujourd'hui un funérail classique et traditionnel.
Mais vous voyez, dans les champs de bataille, question historique, dans les champs de bataille du 19e siècle surtout, qu'advenait-il des cadavres? Des monceaux de cadavres, et bien ils terminaient en fertilisant dans les champs, surtout en Angleterre.
Les dents aussi.
Et les dents aussi terminaient en dentier. Donc ça, c'est assez connu. Je crois qu'en Angleterre, il y a encore une expression dont je ne me souviens pas maintenant, qui veut dire les dents, des dents de Waterloo, par exemple, les dents qu'on enlevait aux morts pour mettre aux vivants. Et les cadavres terminaient en fertilisant. Problématique, on n'en parlait pas beaucoup parce que ça a à voir avec notre notion qu'on est poussière et on reviendra poussière, mais très difficile à tenir. Difficile, souvenez-vous, en Europe, je ne sais pas ce qui se passe en Amérique latine, juste pour finir, excusez-moi, en Europe, Amérique latine, en Afrique, je ne sais pas ce qui se passe en Asie, mais en Europe, dans des zones côtières où il y a des pêcheurs, on mange très peu de poissons, les Bretons par exemple, les Irlandais. Parce qu'il reste dans un coin de la tête l'idée que nos chers, les pêcheurs morts en mer, sont mangés par les poissons. Et si on va pêcher des poissons, on peut être en train de manger quelque part notre chair.
Et vous êtes prête à terminer en compost humain ou pas?
J'ai du mal avec cette idée.
À mon contraire, je suis prête, mais pas tout de suite. Donnez-moi encore un petit peu de temps, s'il vous plaît. Mais j'aime beaucoup l'idée parce qu'on vient de la nature et on repart dans la nature. C'est-à-dire que j'ai eu l'image, quand j'ai lu cet article et quand je vous écoutais, de temps en temps, j'imagine, sauf si je suis la seule un petit peu folle de la troupe, quand vous vous baladez dans une forêt et que vous voyez un arbre formidable et que vous ouvrez vos bras et que vous embrassez en un sens, vous prenez vos bras, le tronc de l'arbre autour de cet arbre, vous devenez un en tant qu'être vivant avec cet arbre, avec cette nature.
En symbiose.
Et que quand vous mourrez, l'idée que vous serez à nouveau, vous serez à nouveau en train d'embrasser cet arbre, mais de ses racines,
à condition de savoir
infiniment.
Où sont vos ancêtres ou pas dans ces cas-là.
Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est métaphysique et spirituel. Je pense que les morts partent physiquement, mais restent avec nous d'une autre façon. Donc, que moi, mes ancêtres sont en Turquie, je suis là en France, et qui sait où sera mon compost à la fin de ma vie. Mais nous resterons toujours reliés, je pense.
Et c'est Gulcert, on va passer à un dernier sujet. Vous avez vu Game of Thrones, la dernière saison, la huitième et dernière saison.
Alors je vous avoue que je n'ai pas vu le premier ou la dernière saison, et pour cela je dis excusez-moi et que j'utilise un argument banal en disant je viens du tiers monde où il n'y a pas d'électricité ni de télévision et donc je laisserai les autres chatcheuses parler de Game of Thrones.
Ouais, et ben écoutez, c'est un peu facile, hein, c'est la série la plus diffusée dans le monde. 173 pays, donc effectivement, voilà. On la regarde partout.
En même temps.
On va laisser le duel Ana Navarro-Pedro et Paola Martinez sur les 8e et dernière saison de Game of Thrones, qui divise les fans, qui l'ont attendu 2 ans, verdict et débat dans quelques secondes avec nos deux chatcheuses. Romain Dubrac nous annonce qu'il va couper le son de la tchatcheuse qui dévoilera de manière totalement inconsidérée et folle la toute fin.
Non, mais alors, on va
faire attention. 11 millions de gens aux États-Unis qui ont posé un jour de congé pour le dernier épisode et un fan mécontent qui a lancé une pétition pour demander la réécriture de la dernière saison avec des meilleurs scénaristes. L'argument que c'était en gros, hein, de ce que j'ai compris, bâclé. Vite fait, mal fait. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'était bâclé. Ça, c'est sûr. C'était bâclé parce que la série est assez...
Pourtant, il y a quand même eu du dollar. Hein.
Ah, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les deux producteurs ont signé pour le nouveau Guerre des Étoiles. et qu'il fallait terminer vite pour, parce que y a, vous savez, les contrats ont des clauses de retard qui coûtent très cher. Et donc, ils ont ramené les caractères, certains caractères à des conclusions. Ah, pas de spoiler.
Paola Martinez, il vous reste 50 secondes, elle vous a piqué le reste.
D'accord. Non, je ne veux pas spoiler non plus, mais je trouve qu'en effet, cette saison-là, elle a un peu mis en néant certains personnages et personnalités plutôt que des personnages qui ont évolué tout au long de la série. Et on est dans des fins banales, bancales, très décevantes. Et moi, je comprends.
Vous êtes d'accord avec
ça ? Qu'il y a des gens qui sont déçus. Et moi, je suis prête à signer cette pétition. Elle est où ?
Ah, ben, elle est sur Internet.
D'accord.
Déjà 300 000 signataires. Oui, la question est la suivante. C'est que cette série est quand même le premier blockbuster de l'Europe. Excusez-moi pour les mots anglais hein, sur cette émission RFI. Mais c'est la première grande série qui est comme un grand film dans le monde entier, 173 pays en même temps. Mais surtout, elle a rempli un vide. C'est-à-dire qu'avant, on avait Dickens, on avait Zola, on avait Scott, on avait plein d'écrivains qui nous racontaient un monde
on
et qui nous l'expliquaient politiquement, socialement.
Non. Le moment où vous mettez la littérature dans le même bain que Game of Thrones, là,
je ne la mets pas dans le même bain. Je dis que la littérature aujourd'hui ne remplit ce rôle et que somme toute, Game of Thrones, qui donne une explication d'un monde, a rempli ce vide pour certaines générations.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin sur cette intrigue médiévale ou fantastique qui raconte l'histoire de plusieurs familles qui se battent, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, pour régner sur le monde.
C'est une femme de Machiavel à nouveau.
Voilà, et donc en gros, hein, pouvoir, religion, guerre, sexe et violence, il n'y a rien
là,
de nouveau.
Je pense que Dickens aurait bien voulu être du compost en ayant entendu votre argument.
Il l'est déjà, le pauvre.
Mesdames les tchatcheuses, dernier sujet, un reportage, une interview, une rencontre que bien sûr vous pourrez commenter. Female Pleasure, c'est le titre d'un documentaire sorti ce mois-ci sur les écrans français. Portrait croisé de 5 femmes aux États-Unis, en Somalie, au Japon, en Allemagne, en Inde. Pour ces femmes, parler du plaisir féminin, c'est d'abord parler de leur combat contre les violences, notamment sexuelles, dont elles ont été victimes. Charlie Dupio a rencontré l'une de ces 5 héroïnes, Leila Hussein, d'origine somalienne, et Barbara Miller, la réalisatrice suisse très féministe du documentaire.
I was traveling a lot in the whole world and I was wondering why so many women.
Je voyageais beaucoup à travers la planète et je me demandais pourquoi tant de femmes dans tant de pays associent la sexualité à une obligation et pas au plaisir. J'ai fait des recherches et je suis tombée entre autres sur les livres saints des 5 grandes religions qui disent clairement que le corps féminin est source de péché dans le monde. Bref, qui peuvent diaboliser cette sexualité féminine. Dans ce documentaire, on parle du christianisme, du judaïsme, de l'hindouisme, du bouddhisme et de l'islam. Ce qui est important de dire pour moi, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de foi. La foi est personnelle et cela n'a rien à voir avec ça. Il s'agit surtout de l'interprétation faite des textes. J'ai eu envie de trouver 5 femmes de ces 5 religions, de ces 5 cultures différentes, pour raconter leur histoire et leur expérience. Parmi elles, il y a donc Leila Hussein, activiste somalienne, qui vit à Londres et qui se bat contre les mutilations génitales de manière courageuse.
Leila Hussein, vous êtes aussi avec nous. Et dans ce documentaire, vous racontez notamment l'excision dont vous avez été victime.
Oui, j'ai été excisée à l'âge de 7 ans. Un docteur l'a fait, mais cela a été organisé par ma mère. Je viens d'une famille qu'on pourrait dire très libérale, éduquée, privilégiée. Mais c'était une pratique toujours répandue dans ma famille, car c'était considéré comme faisant partie de notre culture. Toutes les femmes dans ma famille ont subi cette pratique. Je suis allée vivre au Royaume-Uni à l'âge de 12 ans. Et pour moi, mon vrai voyage a commencé il y a près de 17 ans, quand j'ai eu ma fille. Parce qu'un professionnel de santé, pour la première fois, m'a demandé ce qui m'était arrivé en m'examinant. En fait, on m'a excisée pour contrôler ma sexualité. Cela m'est arrivé à l'âge de 7 ans et j'ai attendu l'âge de 22 ans pour en parler. Même aujourd'hui, quand je parle de ce documentaire, il y a un petit choc d'horreur parce que l'idée de parler du plaisir féminin est toujours taboue. Pour parler du sexe des filles, on dit « en bas ». J'ai même entendu le mot « cerise » une fois. Pourquoi on parlerait des organes génitaux féminins ? Pourquoi on parlerait de vagin avec d'autres mots que celui-ci ? Même les mots « organes génitaux » sont trompeurs. Les hommes parlent souvent de leur pénis en utilisant ce mot-là, sans honte.
Justement, on pourrait parler de cette artiste japonaise, alors Rokude Nashiko, qui a créé ce qu'elle appelle l'art vaginal et qui donc réalise des moulures de son vagin, voilà, pour briser un certain tabou. Et ce qu'elle soulève aussi dans le documentaire, c'est la question de la pédopornographie qui est très présente et autorisée au Japon.
Quand j'ai commencé le film, la pornographie impliquant des enfants était toujours autorisée. Cela a changé il y a 3 ans, pendant que j'étais encore en train de tourner. Mais les mangas érotiques de ce type sont toujours autorisés. Qu'est-ce que cela raconte de la sexualité féminine ? C'est l'idée qu'on ne veuille pas d'une femme qui puisse décider ce qu'elle veut, exprimer son plaisir ou ce dont elle a besoin. Non, on l'imagine comme une petite fille qui dit oui, 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 et tout va bien. Cela raconte beaucoup de cette société, malheureusement. Alors le travail le plus important de cette artiste japonaise est un vagin ou un kayak qui a la forme de sa vulve. Elle l'a vraiment conçu comme un vagin imprimé en 3D. Elle l'a agrandi pour en faire un canoë dans lequel elle embarque et elle pagaye sur la rivière. Pour elle, c'est tout un symbole de s'asseoir sur son propre vagin, d'être maîtresse de sa propre sexualité. Et pour cette œuvre, elle a été arrêtée. Là, elle attend un procès dont on ne connaît pas encore l'issue. Elle est accusée d'obscénité. En voyant ce qui lui arrive, on comprend que c'est extrêmement politique. Car elle amène le vagin dans l'espace public et on n'a pas le droit de faire ça.
Ça vous fait rire, Leila Hussein.
Oui, il faut que je rie, car si je pleure, je vais pleurer pour le reste de mes jours. C'est choquant. Nous parlons toutes de nos problèmes et puis on voit ça à l'écran et on se dit « Voilà, voilà pourquoi j'ai été mutilée ». Parce qu'on vit dans des sociétés où on déteste tellement le vagin qu'on peut aller en prison pour l'avoir dessiné ou sculpté. C'est son propre vagin. Moi aussi, j'aimerais faire une moulure du mien. Souvent, les femmes qui regardent notre documentaire viennent nous voir après pour nous dire qu'elles vont aller regarder leur vagin de plus près. C'est génial que le documentaire ait cet effet-là, car les femmes ont tellement peur de regarder leur corps.
Et Leila Hussein, qu'est-ce que vous transmettez à votre fille sur cette question du plaisir ?
Je lui ai appris des choses sur son corps très tôt. Je me rappelle, quand elle avait 6 ans, elle est tombée et elle est partie en courant vers une famille inconnue en disant « Oh là là, je me suis fait mal au vagin !» On entend rarement une petite fille utiliser ce mot-là. Moi, j'ai toujours appelé ça comme ça, c'est le nom. Elle a maintenant 16 ans et récemment, avec elle, on a eu une conversation sur les vibromasseurs. Elle arrive à un âge où elle a envie de se faire plaisir, mais elle ne veut pas encore coucher avec des garçons, car elle ne pense pas qu'ils vont réussir à la faire jouir. Elle me l'a dit comme ça. Voilà, c'est ce genre de conversation qu'on a à la maison. Donc, clairement, la société n'est pas prête pour nous.
Et pour vous, les tchatcheuses, on dit quoi ? Qu'est-ce que ça vous inspire, Aïssé Gulsert ?
Moi, ça m'a fait penser, j'ai hâte de voir ce documentaire, à la pièce de la dramaturge américaine Eve Ensler, qui avait écrit les Vagina Monologues et les Monologues du Vagin, qui aussi parlait de tous les mots qu'on donne, au lieu de dire vagin, tous les mots qu'on donne autre que pour ne pas utiliser le mot tampon, etc. Et ce qui me brise le cœur, c'est bien sûr d'entendre les mutilations génitales qui continuent.
Le documentaire est projeté dans les salles en France et il a été diffusé en Allemagne et il sera projeté en Pologne et en Espagne.
Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il m'explique surtout une question de pouvoir et liberté. C'est l'empowerment qu'on appelle. Les femmes, ils ont aujourd'hui empoderadas, on dit en espagnol, avec ce qu'ils peuvent décider ou pas de son corps. Et aussi, ça passe pour les faire déconnaître son corps. Il faut savoir que parfois, dans les manuels scolaires, les filles ne savent pas où se trouvent les clitoris et quelle forme il a les clitoris non plus. Que c'est aussi une source incroyable de plaisir. Donc là, je trouve que c'est aussi une question d'éducation. Et ce documentaire-là, il va vers ces voies-là, ouais. Notamment.
Alors c'est un sujet qui est largement abordé à Priorité Santé avec la sexologue
briser des tabous.
Voilà, Catherine Solano, et avec beaucoup de succès d'ailleurs. Ana Navarro Pedro, le mot de la fin.
La peur des hommes de la sexualité féminine, qui explique tellement de choses dont on a parlé dans cette émission. Leur désir de
pour
contrôler
certains,
le corps des femmes.
C'est un grand sentiment de puissance de donner du plaisir aux femmes aussi. Il ne faut pas non plus parler que de la
peur
des
hommes. Non, pour les hommes, oui, pour beaucoup. Heureusement, mais pas que
cela.
On peut se
donner du plaisir.
Et ben, seulement la sensation, le sentiment de d'avoir donné du plaisir aux femmes suffit parfois.
Merci à vous les tchatcheuses. Vous revenez quand vous voulez dans cette émission. Ana Navarro Pedro, Paola Martinez, Aïssé Gulsert. Merci aussi à toute l'équipe. Sigrid Lazerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Émission à réécouter bien sûr en toute liberté et en podcast. Demain, 7 milliards de voisins.
Construction, grands travaux, agriculture, on parlera de la pénibilité et de la précarité au travail en Afrique. Et bien sûr, vous aurez la parole, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. À demain.